Je défends que mon corps soit ouvert sous quelque prétexte que ce puisse être. Je demande, avec la plus vive instance, qu'il soit gardé 48 heures dans la chambre où je décéderai et placé dans une bière de bois qui ne sera clouée qu'au bout des 48 heures prescrites ci-dessus, à l'expiration desquelles ladite bière sera clouée. Pendant cet intervalle, il sera envoyé un express au Sieur Lenormand, marchand de bois, boulevard de l'Égalité, numéro 101 à Versailles, pour le prier de venir lui-même, suivi d'une charrette, chercher mon corps pour être transporté sous son escorte au bois de ma terre de la Malmaison, commune de Mancé près d'Épernon, où je veux qu'il soit placé, sans aucune cérémonie, dans le premier taillis fourré qui se trouve à droite dans le dit bois, en y entrant du côté de l'ancien château par la grande allée qui le partage. Ma fosse sera pratiquée dans ce taillis par le fermier de la Malmaison, sous l'inspection de Monsieur Lenormand, qui ne quittera mon corps qu'après l'avoir placé dans ladite fosse. Il pourra se faire accompagner dans cette cérémonie, s'il le veut, par ceux de mes parents ou amis qui, sans une aucune espèce d'appareil, auront bien voulu me donner cette dernière marque d'attachement. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que, par la suite, le terrain de ladite fosse se trouvant regarni et le taillis se trouvant fourré comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. Fait à Charenton-Saint-Maurice, en état de raison et de santé, le 30 janvier 1806, signé Donatien Alphonse François de Sade.
Alors, on entend ici un autre Sade, un Sade qui rêve de disparaître, un Sade qui rêve de ne laisser aucune trace dans la mémoire des contemporains. Ce testament de 1806, donc 8 ans avant sa mort, contenait trois dernières volontés. La première, ne pas être autopsié. On l'a entendu, je refuse que mon corps soit ouvert. La deuxième, surtout, ne pas avoir d'enterrement religieux. Un Sade a été un athée assez radical. Je dis assez parce que c'est un peu plus compliqué que... Mais enfin, il ne voulait surtout pas un prêtre. Et puis, il voulait être enterré dans la forêt de Malmaison, en région parisienne, où sa famille avait une maison. Son fils, il a 3 enfants. Il y a un fils qui lui survit, Claude Armand, son deuxième fils. Son fils, avec qui il est bien sûr en mauvais termes, on peut imaginer... Ne respecte quasiment aucune de ses volontés. Il paye très cher un prêtre pour dire une messe à l'enterrement de Sade, et le prêtre a vraiment dû être payé très cher, à mon avis, ou alors il n'avait jamais lu une ligne de Sade. Sade voulait que personne ne sache, très important pour lui, où était sa tombe. Or, Claude Armand le fait enterrer tout à fait banalement dans le cimetière de Charenton. Par contre, le seul vœu qu'il respecte, d'abord, c'est l'absence d'autopsie. Le corps de Sade n'est pas autopsié, d'abord. Et puis 4 ans plus tard, en 1818, on réaménage le cimetière et le déplacement des tombes oblige les employés municipaux à déplacer les restes de Sade. Et les médecins légistes, qui brûlaient d'impatience de pratiquer une autopsie, se jette sur l'occasion et cette fois-ci, sans demander l'avis de personne, pratique une autopsie. Pourquoi cette impatience ? En 1818, nous sommes en plein dans l'essor de la phrénologie. La science a été théorisée en Allemagne par 2 médecins qui ont beaucoup publié entre 1810 et 1814. C'est des traités qui expliquaient que toutes les pathologies, vous vous souvenez, hein, s'expliquaient par la forme du squelette et en particulier par la forme du crâne. Alors, vous imaginez le crâne de Sade et puis même d'une manière générale son corps. Les médecins se disent, on va enfin comprendre qui était cet homme et quel monstre il était. Et donc, le docteur de Charenton, le médecin, le docteur Ramon, il s'appelle, pratique une autopsie du corps de Sade. Il passe à peu près, je sais pas, 5 heures à examiner son crâne. Il rend un rapport qui est pour nous savoureux. Il dit, son crâne n'a rien d'extraordinaire. Et en fait, il dit clairement, ce Sade, en fait, c'était juste un homme. En tout cas, ni l'autopsie, ni l'examen du crâne ne révèlent une quelconque anomalie, ce qui nous montre aussi, hein, déjà à son époque, la disproportion entre la légende d'une anormalité de Saad et puis la totale banalité de sa physiologie et encore plus de son crâne. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce testament, c'est qu'on y voit Saad dire « Je veux que seuls mes amis m'accompagnent, mes amis et mes proches ». On se dit, est-ce que cet homme avait donc des amis ? Oui, il a eu des amis et il y a des gens qui l'ont aimé, et en particulier des femmes, de manière très surprenante, des femmes qui l'ont aimé longtemps, durablement. Sa première femme, Renée Pélagie de Montreuil, il l'épouse un peu contraint en 1763, c'est un mariage imposé par la famille, mais très rapidement, l'amour vient un peu entre eux, une espèce de complicité tendre, on va dire plus exactement comme ça, qui devient ensuite, pendant les années de prison de Saad, une vraie passionnante histoire d'amour. Cette Renée est vraiment un personnage très intéressant, elle a aimé Saad passionnément, et puis un jour ça s'arrête. Ils divorcent. On est pendant la Révolution, les divorces sont autorisés, vous le savez, il y a des queues dans toutes les mairies en France, puisque tous les couples, les unions mal assorties, comme on les appelait, tous les gens qui avaient été mariés un peu contre leur gré, divorcent. Alors les Saad, c'est un autre problème. Vous imaginez bien qu'il y avait d'autres motifs de divorce. René a beaucoup aimé Donatien, mais ils se séparent. En revanche, Donatien rencontre à ce moment-là une autre femme, une actrice, Constance Quesnay, qui va vraiment, là encore, l'aimer et réciproquement, et qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, au point que lorsqu'il sera interné à Charenton, Constance va demander à ce qu'une chambre lui soit elle aussi allouée dans l'hospice, et donc elle va vraiment vivre à ses côtés, en quasi-conjugalité, à Charenton. Ce qui, pour nous, est assez surprenant de prime abord, parce qu'on se dit, mais comment ces femmes ont-elles pu l'aimer ? Ce qui, quand on réfléchit un peu à qui était cet homme, nous fait penser qu'il n'était peut-être pas si monstrueux. On ne passe pas 15 ans de sa vie avec un monstre, à moins d'être dans une perversion totale. C'est long quand même, hein. Donc, je me dis, il ne devait pas être si barbare pour que des femmes, et elles sont en nombre, l'aient aimé. Il y en a en réalité beaucoup d'autres, hein. Ce sont les femmes qui l'ont le plus aimé, et il les a beaucoup aimées. Tout ça pour dire, ne vous dites pas que j'ai un problème personnel avec ça, je le réhabilite comme ça, mais parce qu'en fait, je tiens juste, j'espère, vous donner envie d'aller voir par vous-même, vous rappeler juste, je pense que c'était un homme comme les autres qui a beaucoup souffert, hein, de ce qu'on en a fait. Ce n'était pas un saint, il l'a dit, mais c'était un homme. Donc, un homme qui avait des amis, un homme qui a été aimé et surtout un homme qui a cherché finalement la reconnaissance, la respectabilité. Saad n'a pas du tout, je vous le disais tout à l'heure, aimé le scandale, la noirceur, il n'a pas du tout joui d'une manière ou d'une autre d'être comme ça le bourreau de l'Ancien Régime et d'avoir son nom associé pour l'éternité au sadisme, à la jouissance douloureuse. Au contraire, son idéal littéraire à Saad aurait été d'être un homme de théâtre. Il a écrit du théâtre toute sa vie. Ses premières œuvres sont du théâtre. Ses dernières, à Charenton, sont du théâtre. Il a écrit, il a aussi joué au théâtre. Et apparemment, ce n'était pas l'acteur du siècle, mais c'était plutôt un bon acteur. Il faisait aussi jouer ses proches. Sa femme, Renée, à un moment donné, était actrice dans plusieurs comédies. Elle fait rire tout le monde. Là aussi, je me dis, cette Madame de Saad, elle devait être quand même assez intéressante, parce qu'elle n'était pas non plus la femme effacée qu'on a, là encore, fabriquée. La femme soumise, non, elle fait rire. Et quand elle est absente, Saad lui écrit « Mais reviens, le public t'a réclamé. » Enfin, du coup, c'est une actrice un peu piquante. Donc Saad est acteur aussi. Et puis surtout, Saad est metteur en scène. Il n'y a rien qui lui plaît autant que d'orchestrer la soirée, le spectacle, de prévoir des festivals de théâtre. En 1772, on n'est pas encore à Avignon, mais on n'est pas loin, puisqu'il a son château à la Coste. Et donc il a l'idée... en 1772, après la première affaire d'Arcueil, son premier scandale, on lui dit « Éloigne-toi de Paris, là, va loin, va en Provence ». Ça tombe bien, c'est sa région. Les Saad viennent de Provence. Il y a trois châteaux trois domaines qu'il possède à côté de l'île sur la Sorgue, à la Coste, où vous avez peut-être vu aujourd'hui ce village de Provence où il y a les restes de son château, enfin, c'est plus des restes aujourd'hui, et puis à côté, à Somane, un peu plus vers Apt. Et donc, Sade organise un énorme festival. Tous les soirs, il y a 300 personnes qui l'invitent, des amis ou des gens de la région, qui viennent voir ses pièces ou les pièces à la mode de l'époque qu'il fait jouer. Ça marche tellement bien, son festival, qu'il a l'idée d'ouvrir une annexe à Somane. Et l'été 72 se passe dans une espèce de pré-Avignon où toute la Provence est un lieu de théâtre où, comme à Avignon, vous pouvez choisir une programmation à la Coste, une programmation à Somane. Et là, Sade se dit même, mais c'est tellement génial le théâtre, il faudrait aussi envisager des spectacles un peu plus populaires. Parce que les gens ne peuvent pas tous non plus s'offrir mes billets ou aimer mes spectacles. Et donc, il a l'idée de créer un cabaret pour les voyageurs qui relieraient la Coste et Somane et qui voudraient le soir, en buvant une bière et en mangeant quelque chose, avoir un spectacle un peu plus léger. Donc, vous voyez, il pense le répertoire, il pense la scène dans toute sa diversité. Et on le voit jusqu'à la fin de sa vie, hein, et pendant la Révolution aussi, lorsqu'il a retrouvé la liberté, petite parenthèse, hein, il a vraiment sollicité toutes les salles pour faire jouer ses pièces. Aucune, ou presque, n'a été reçue. Hein, on ne peut pas dire que Sade ait du tout obtenu la réussite qu'il voulait. Mais en fait, son grand rêve, ce n'aurait pas du tout été d'être l'auteur noir des 120 journées de Sodome. Ça aurait été d'être le Destouches, pour citer un des auteurs qu'il admire, ou le Molière, hein, un siècle plus tôt, de l'Ancien Régime. De ce point de vue-là, il est passé totalement à côté de sa vocation. Mais il s'est rêvé en auteur officiel, il s'est rêvé en auteur décent, il s'est rêvé en auteur classique, en fait. Voilà. Ce n'est donc pas ni un homme qui était né pour être maudit, ni un monstre solitaire. Alors, si on essaye d'avancer un tout petit peu plus à sa rencontre, on s'aperçoit aussi que Sade est très tôt un libertin un peu mélancolique. En tout cas, ce n'est pas toujours évident de faire un portrait psychologique de quelqu'un de disparu depuis si longtemps, et puis on a pour preuve que les textes qu'il nous a laissés. Mais à 20 ans, il écrit un autoportrait à son père, une longue lettre à son père, dans laquelle il décrit un tout petit peu son caractère, et vous allez voir ce qu'il dit de lui à 20 ans, donc en 1760, est assez surprenant.
Vous me demandez le plan de ma vie, de mes occupations? Je vous en fais le détail avec sincérité. On me reproche d'aimer à dormir. Il est vrai que j'ai un peu ce défaut, je me couche de bonne heure et me lève tard. Je monte à cheval fort souvent pour examiner la position des ennemis et la nôtre. Dès qu'on est 3 jours dans un camp, je le connais jusqu'au moindre ravin, aussi bien que monsieur le maréchal. Je fais d'après mes réflexions, bonnes ou mauvaises, je les dis et je suis louée ou blâmée à proportion du peu ou point de sens commun qu'elles ont. Quelquefois je fais des visites, mais ce n'est que chez monsieur de Poyanne ou chez mes anciens camarades des carabiniers ou du régiment du roi. Je fais peu de cérémonies. Je ne les aime pas. Il faut faire sa cour pour réussir, mais je n'aime pas à le faire. Je souffre quand j'entends quelqu'un dire à un autre, pour le flatter, 1000 choses que souvent il ne pense pas. Il est plus fort que moi de jouer un aussi sot personnage. Être poli, honnête, haut, sans fierté, prévenant, sans fadeur, faire assez souvent ses petites volontés quand elles ne nous nuisent pas, ni à nous, ni à personne. Vivre bien, s'amuser sans se ruiner ni se déranger. Peu d'amis, point peut-être, car il n'en existe pas un véritablement sincère et qui ne vous sacrifia 20 000 fois si le plus léger intérêt de son côté s'y trouvait engagé. De l'égalité dans le caractère, qui vous fasse bien vivre avec tout le monde, sans jamais cependant se livrer à personne, car vous ne l'êtes pas plus tôt que vous avez lieu de vous en repentir. Dire le plus grand bien, faire les plus grands éloges de gens qui, souvent, sans sujet, ont dit beaucoup de mal de vous, sans que vous puissiez vous en douter. Car presque toujours, ce sont ceux qui ont les « dehors » les plus attrayants et qui paraissent le plus rechercher votre amitié qui vous trompent le plus. Voilà mes vertus. Voilà où j'aspire. Il en est des amis, comme des femmes. L'épreuve fait souvent voir que la marchandise est souvent trompeuse. Voilà toute ma confession.
Alors, on voit ici un Sade à 20 ans assez sombre et assez pessimiste moralement. D'abord, il est pessimiste sur la vie sociale, sur les conditions de ce qu'on appelle à son époque la carrière. Que faut-il faire pour réussir ? Sade le découvre pendant son service militaire, mentir, flatter, courtiser. Pour lui, très tôt, il s'aperçoit que cette éthique n'est pas la sienne. Sade apparaît, jeune déjà, comme un personnage sans compromission, quitte à renoncer à la carrière, quitte à dessiner l'idéal qu'il esquisse lui-même dans sa confession, une vie assez neutre, hein, s'amuser sans se ruiner, passer inaperçu, avoir peu d'amis, une espèce de petite vie un peu tiède, qui n'est peut-être pas exaltante, mais qui au moins ne lui coûte pas d'avoir dû mentir, d'avoir dû flatter, d'avoir dû prononcer des mots qu'il ne pense pas. Il y a un côté sans concession et triste, un peu mélancolique chez ce jeune Sade. Mais qui va découvrir aussi, c'est pas très gai, hein, mais autant rentrer dans la vérité de ce que nous dit cet homme, qui va découvrir aussi, pour lui en tout cas, comment fonctionne le monde. Ce qui va nourrir chez Sade toute une réflexion philosophique et même, plus précisément, morale, réflexion qu'on va trouver déclinée dans toute son œuvre. Le monde, constate-t-il, est corrompu. Ceux qui ont le pouvoir ne le méritent pas. Ceux qui ont des principes et qui sont justes sont toujours minorés ou sanctionnés. Je vous avais prévenu que ce n'était pas gai. Face à cet état de fait d'un monde que Sade constate comme étant fondamentalement injuste, c'est-à-dire un monde dans lequel les justes ne sont jamais récompensés, mais les salauds, que faire ? Question philosophique. Deux options. Puisque le monde est gouverné par les scélérats, et puisque le vice paye, bien sûr, il y a une voix en vous et autour de vous qui s'élève et qui vous dit « Eh bien, devenons vicieux, nous aussi. Devenons hypocrites, faisons le mal, puisque de toute façon, c'est le mal qui réussit, c'est le mal qui paye. » Ce sera l'école Juliette. Juliette, dont l'héroïne du roman de 1797, dont Sade intitule La Confession, Juliette ou les prospérités du vice. Le titre est tout un programme, puisque le vice prospère, autant le pratiquer allègrement. Et donc Juliette, à l'âge de 14 ans, comprend que lorsqu'on est une femme, pour réussir, il faut perdre sa vertu et sa virginité immédiatement. Elle n'en fait pas une affaire, elle la perd, et d'autant qu'une courtisane lui dit « tu la perds, mais on peut te la redonner artificiellement à peu près 200 fois, donc on ne va pas non plus sacraliser la virginité, puis tu verras, le monde y marche comme ça ». Elle se prostitue, elle réussit, elle s'enrichit, etc. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une autre version que Sade soutient avec la même conviction, une autre école philosophique, qui consiste à dire, mais si le vice domine, on peut quand même opter pour la vertu. Mais, si nous sommes vertueux dans un monde qui ne l'est pas, nous souffrons. Et nous souffrirons tout le temps. C'est l'option Jésus-christique, c'est l'option Justine. Justine, que Sade invente comme étant la sœur de Juliette, il y a un diptyque des deux sœurs, Juliette ou les prospérités du vice, Justine ou les malheurs de la vertu. Sade ne tranche pas. Il nous montre deux choix de vie. A priori, nous lecteurs, nous disons que Justine est vraiment une martyre du bien. Vous connaissez l'histoire. Justine pratique une vertu. Par principe, elle a des vertus. Le bien, la charité, la bienfaisance, la pitié. Et donc Sade la met en scène comme pratiquant méthodiquement ses vertus. Exemple, elle marche sur un chemin. Alors d'abord, elle est avec sa sœur Juliette. Et puis donc Juliette lui dit, ben écoute, t'as compris, la vertu, il faut la perdre tout de suite. Et là, Justine dit, ah ben non, moi je préfère garder la mienne. Je sais jamais, je sais pas, j'aime pas ces principes. Je préfère rester vertueuse. Alors là, Juliette lui dit, bon, on va se séparer, parce que je pense qu'on ne va pas du tout avoir la même vie. Et donc, les deux sœurs se séparent et momentanément, on n'entend plus parler de Juliette. Justine marche sur la route et puis elle voit un mendiant qui lui demande de l'argent. Elle se dit, soyons charitables, c'est là une vertu. Évidemment, il s'agit d'un faux mendiant qui l'attaque, qui la viole. Pas tout à fait, parce que par un étrange miracle narratif, Justine gardera sa vertu jusqu'au bout, malgré tous les sévices qui lui seront imposés. Mais on voit à quel point, du coup, pour Sade, c'est une espèce de cas anthropologique, Justine, peu importe qu'elle soit vierge ou pas. Ça n'a plus aucune vraisemblance dès la page 12 du texte. Mais c'est l'idée d'une vertu totale, d'une vertu un peu radicale. Justine, c'est un peu le Robespierre du bien. Je fais le bien. Et on lui dit, alors très vite, du coup, elle souffre. Elle voit très bien que c'est un faux mendiant. Elle continue. 200 pages plus loin, elle rencontre, là encore, elle voit un homme attaqué dans les bois, elle se dit le pauvre, elle vole à son aide, bien sûr c'était une mise en scène pour l'attirer, hop, elle est violée, on la laisse à moitié nue se faire dévorer par des chiens, et là, nous lecteurs, on attendrait qu'elle se dise, bon, j'arrête le bien, stop. Eh bien, pas du tout. Elle continue. Et c'est pour nous, du coup, une expérience de lecture assez troublante, d'abord agaçante, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, et après, douloureuse. Et en fin de compte, morale. Parce que finalement, quand on relit ensuite l'histoire de Juliette, Juliette, bien sûr, elle perd sa virginité au jour 2. Au jour 3, elle couche avec son père. Tant qu'à faire, autant lever tous les tabous. Ensuite, on lui dit, tu veux réussir, ça ne suffit pas d'avoir couché avec tout le monde. Il faut tuer, il faut pratiquer le meurtre. Qu'à cela ne tienne. Et il y a une surenchère comme ça dans Juliette qui, a priori, peut sembler fascinante. Sauf que, très rapidement, Juliette, elle s'ennuie. Quand on a couché avec son père, tué sa mère, elle se dit « qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» Et là, elle a une idée, parce qu'elle rencontre... Ils lui disent « mais attendez, il y a encore un... Qu'est-ce qu'on peut... Où on peut encore trouver une petite raison de vivre ?» Elle dit « s'il me reste quelque chose à faire, c'est coucher avec le pape. » Et donc, elle va à Rome, il y a une grande scène... dans l'histoire de Juliette, où Juliette couche avec tous ses amis, une espèce d'orgie sexuelle, au Vatican avec le pape. Mais quand bien même vous couchez avec le pape, etc., il y a l'ennui qui vous gagne. Et l'histoire de Juliette, elle est très rapidement mélancolique. Les personnages sont là, ils ont tout essayé, ils ont même mis des animaux, des dindons, ils ont tout fait. Et finalement, l'histoire de Juliette, elle piétine. Mais c'est ça que nous dit Sade aussi. Quand on a tout consommé tout de suite, il ne reste rien à attendre. Alors que Justine, au début, on la trouve ridicule, on la trouve même ensuite sacrificielle, on la trouve même vraiment christique. Sauf que Justine, elle dit « moi, je reste vierge ». Alors les hommes essayent des choses sur elle, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils n'arrivent jamais au bout. Donc elle, du coup, elle dit « j'ai jamais vraiment connu le plaisir ». Du coup, toute ma vie, je peux le rêver encore. Alors que sa sœur, elle a tout goûté. Et du coup, ses goûts sont dépravés. Comme dit Sade, elle est blasée. Il n'y a plus rien qui l'excite. Alors que Justine, en effleure sa main, elle frissonne encore. Vous voyez ? Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, la philosophie de Sade, de ce point de vue-là. Peut-être que le bien douloureux, solitaire, ascétique, qu'est le choix de Justine, n'est peut-être pas si ridicule que ça. Peut-être qu'il vaut mieux souffrir dans un monde injuste que perdre son âme et réussir dans ce même monde. En tout cas, c'est toute la question troublante, je trouve, et tristement actuelle aussi, de l'œuvre de Sade. À un moment donné, dans un autre de ses grands textes signés, parce que la plupart de son œuvre est anonyme, sauf certains textes qu'il a publiés sous son nom, en particulier Aline et Valcourt, son grand roman épistolaire de 1795. S'il y a un jour un texte qui doit être mis à la grecque de Sade, ce serait celui-ci, hein. C'est vraiment la nouvelle Héloïse de Sade, le roman épistolaire de l'amour impossible, 1795. Les femmes qui traversent tous les pays d'Aline et Valcourt se posent sans cesse la question, voyant que le monde est injuste, que les barbares règnent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme eux ou il faut rester comme on est nous, etc. Et puis un jour, elles trouvent refuge dans une troupe de bohémiens. Alors ça, c'est toujours l'idéal de Sade, parce que les bohémiens, étant justement itinérants et ayant leur propre législation, n'appartiennent à aucun système. Ils sont du coup protégés de la perversion de toute institution humaine, puisqu'ils sont toujours en mouvement. Hein, pour ça, dès que l'humain s'installe, fait une constitution, une société, il se déprave, il devient violent, alors que les bohémiens sont sauvés. Et puis le chef des bohémiens, qui s'appelle Brigandos, qui est un très beau personnage, un soir donne une petite leçon de philosophie aux deux filles qui l'ont rejoint, et elles lui disent « qu'est-ce qu'il faut faire, Brigandos, dans un monde injuste ? L'imiter ou au contraire lui résister ?» Et lui, il a cette phrase assez cruelle, il dit « il y a trop de risques d'être seul bon dans un siècle absolument pervers. » Alors voilà, ça c'est un Sade que je trouve très troublant. Hein, c'est dit « il y a trop de risques d'être seul bon dans un siècle absolument pervers. » C'est une question à laquelle on se heurte à peu près tous, hein, aujourd'hui, encore au quotidien, quel que soit notre domaine d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Souffrir et incarner des principes qui sont plus ceux du monde, ou au contraire faire comme tout le monde et perdre son âme ? Je n'ai pas la réponse. Hein, mais Sade, en tout cas, se pose cette question de manière très forte, et dès sa jeunesse, dès 20 ans. On voit donc un pessimisme moral chez Sade. On voit, dès qu'il est très jeune, il le dit, les amis, les femmes, c'est une marchandise trompeuse. Comme si, très tôt pour lui, l'humanité s'était lézardée. Hein, le vernis s'était d'un coup écaillé pour laisser voir ce qu'est l'humain, au fond pour lui, quelque chose d'assez peu réjouissant. Alors, les hommes l'ont intéressé au sens générique, hein, l'humain, mais parmi l'humain, Sade s'est beaucoup intéressé aux femmes. Il faut donc qu'on fasse un sort aussi, dans cette soirée, à ce qu'on pourrait appeler les mystères du féminin chez Sade, parce que là encore, tout a couru sur lui. Est-il misogyne ? Est-il au contraire le grand libérateur de la féminité ? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Sade a voulu comprendre les femmes, y compris dans leur plus profond mystère, pour lui, leur anatomie. Cela passe par un projet pédagogique. L'œuvre de Sade est tout entière une espèce d'école sur le corps féminin, ses fonctionnements, mais aussi son plaisir. C'est le cas en particulier au début de la philosophie dans le boudoir, où des libertins, donc Dolmancé, leur chef, et puis deux autres acolytes, pardon, vont faire venir une jeune femme, Eugénie, qui a 14 ans, qui sort du couvent, qui est très ignorante. Là encore, recontextualisons, comme toutes les jeunes femmes de l'Ancien Régime. Hein, on les mariait très jeunes, à peu près à cet âge-là, 14 et 15 ans, sans leur avoir jamais expliqué ni leur corps, ni bien sûr encore moins le corps d'un homme. Et donc elles découvraient tout de la manière la plus violente qui soit, tout. La grossesse aussi, il y en a qui ne comprenaient pas après ce que c'était qu'être enceinte. Et il y en a même qui se demandaient d'où l'enfant, où l'enfant allait pouvoir sortir. Enfin, il y avait une méconnaissance totale de l'anatomie. Et ça, donc, décide que cette jeune Eugénie, dans la philosophie dans le boudoir, elle aura sa leçon d'anatomie, pour reprendre le titre du célèbre tableau de Rembrandt. Alors, c'est la philosophie dans le boudoir et la leçon d'Eugénie.